Il était une fois le Verdon, et bien aujourd'hui aussi, Jean-Christian Michel est venu nous parler du Verdon et quelquefois de la vie dedans, des poissons. Nous avons parlé l'autre fois du Verdon aujourd'hui, présenté, et puis du Verdon, ce qu'il avait été. La présente émission, nous allons repartir du Verdon tel qu'il était, on dira cet été, au moment où il y avait tous les touristes, tous les pêcheurs à la ligne, les rafteurs et pas beaucoup d'eau. Et puis pour savoir, à partir de là, comment envisager le Verdon demain, dans un futur au moins de quelques années, sinon lointain. Alors bonjour Jean-Christian Michel.
Bonjour.
Vous pouvez nous redire succinctement qui vous êtes ?
Je suis avant tout un pêcheur et ensuite un pêcheur qui s'implique dans la vie associative. Donc je suis président d'une association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques et je suis administrateur de la Fédération de pêche des Alpes-de-Provence.
Tout est dit. Alors, le Verdon aujourd'hui, ce qu'on appelle les conflits d'usage, cela vous parle ?
Cela me parle et cela me donne envie de faire une distinction plus fine, si vous me le permettez. Conflit d'usage, donc ça voudrait dire qu'il y a une rivalité, par exemple, pour l'occupation de l'espace entre, on pourrait imaginer, les pêcheurs et les rafteurs, ou entre les rafteurs et les randonneurs, ou que sais-je encore, quoi, ou les baigneurs, par exemple. Donc ça, c'est une chose, conflit d'usage, nous allons en parler. Mais moi, avant de parler de conflit d'usage, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me paraît bien plus fondamental à moi, protecteur des milieux aquatiques. C'est ce que j'appellerais de façon un petit peu personnelle un conflit de gestion. Parce que conflit d'usage, ça traduit l'idée que la rivière serait stable et qu'il n'y aurait que les usagers qui auraient à se bagarrer entre eux pour prendre leur place. Moi, ce n'est pas ce que je vois. C'est qu'en amont de ces usages, il y a une gestion politique des milieux aquatiques. Et si je vois un conflit quelque part, un conflit important, c'est pour le visage que l'on veut donner à cette rivière à l'avenir et que l'on lui donne aujourd'hui, hein, de par la gestion des débits. Parce que je vous rappelle que le Verdon est une rivière fortement artificialisée par les barrages hydroélectriques qui peuvent lâcher de l'eau, qui peuvent ne pas en lâcher, et que ces débits vont avoir une influence directe sur la vie des poissons, sur la vie ou la mort des poissons, mais aussi sur la vie ou la mort d'autres activités économiques. Donc il faut que je pense qu'il est important que l'on arrive à se mettre d'accord sur ce que l'on entend par Verdon, cette rivière Verdon. Si par Verdon on entend une rivière vivante qui se règle sur le minimum biologique pour chaque poisson, on arrivera à se mettre facilement d'accord sur les conflits d'usage.
Mais il y a aussi, qui interviennent maintenant, des variables climatiques. On a des étés de plus en plus secs, on a de moins en moins de neige, donc l'eau dans le Verdon n'augmente pas.
Alors tout à fait, l'eau est de plus en plus rare, mais dans une rivière, il y a ce que l'on appelle le débit réservé. Le débit réservé, c'est la quantité d'eau minimale que les producteurs d'électricité doivent laisser passer dans la rivière. Ce débit minimal dans le Verdon, par le passé, il était donc avant la loi sur l'eau des années 80, il n'y avait carrément pas de débit minimal. Mais en revanche, le barrage de Castillon restituait la totalité de l'eau du canal de Provence. Donc il y avait un débit à peu près constant de 9 mètres cubes seconde dans le Verdon. Après la loi sur l'eau, il y a eu l'imposition d'un débit réservé, donc 0,5 mètres cubes seconde, mais avec des lâchers d'eau à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Et aujourd'hui, depuis quelques années, donc depuis, je crois que c'est depuis 2011 ou 2013, il y a eu une augmentation des débits réservés. On a plus d'eau dans la rivière pour qu'elle fonctionne plus naturellement. Donc on a un débit réservé de 3 mètres cubes seconde toute l'année, débit dont le plancher est abaissé à 1,5 mètres cubes seconde en été, pour permettre aux activités d'eau vive, aux rafts, de bénéficier de 2 lâchers d'eau par semaine pour pratiquer leur activité, parce que les rafts ne peuvent pas naviguer à moins de 13 mètres cubes seconde. Donc là, nous avons eu un été très sec, et les stocks d'eau qui étaient prévus par EDF n'ont pas été suffisants pour lâcher suffisamment d'eau pour les rafts. Donc ça traduit bien que bien évidemment les conditions hydrologiques sont en train de changer dans le Verdon. Par contre, je ne vous cache pas que dans la retenue de Castillon, il y a beaucoup d'eau et que si par le passé on arrivait à lâcher 9 mètres cubes pendant tout l'été et qu'on n'y arrive plus aujourd'hui, c'est par une décision politique.
Voilà, mais il y a aussi qu'il faut que l'eau arrive au niveau sur les plages, puisque les gens vont se baigner autour de ce lac.
Et voilà, il faut savoir si l'identité de notre département, dont le slogan, je vous le rappelle, est « Vivre nature », si l'identité de notre département, c'est seulement une carte postale, ou si on s'intéresse à savoir ce qui se passe écologiquement derrière cette carte postale. Parce que moi, j'aime beaucoup les plages, j'aime beaucoup m'y baigner, et il faut que ce soit joli. Mais par contre, quand on fait de jolies plages pour asphyxier une rivière en aval, c'est peut-être un petit peu dommage.
Voilà, mais il y a des tas de choses dommages, parce que je pense que quand le débit réservé a été 0,5 mètres cubes, les poissons ont dû en pâtir largement.
Alors, c'est une problématique qui est très complexe à démêler, parce qu'on avait des débits à 0,5 mètres cubes, mais dans une rivière dans laquelle il restait encore beaucoup de galets. Donc oui, une rivière qui a si peu de débit, sa surface de lit mouillé va être réduite et l'habitat des poissons est réduit d'autant. Donc oui, ça souffre. Par contre, il y a un effet d'inertie. Pendant des années, la rivière il y avait très peu d'eau. Par contre, les populations piscicoles étaient en bonne santé. Donc malgré le très peu d'eau, elles continuaient à se développer normalement. Et aujourd'hui, paradoxalement, nous avons une rivière où les débits ont bien été améliorés. Tout n'est pas parfait et j'espère que cela évoluera encore, mais il y a eu de grands progrès. Par contre, l'amélioration des peuplements piscicoles est très longue à se faire sentir, à part sur certaines espèces comme sur le chabot, par exemple, sur le Bas-Verdon, qui est un petit poisson qui vit sous les pierres. Nous avons la chance d'avoir une des populations les plus importantes au monde de chabots sur le Bas-Verdon, où sur 100 mètres, on arrive à avoir pratiquement 1000 individus, ce qui est incroyable, quoi. Bon, c'est un poisson qui n'a pas d'intérêt pour la pêche, mais du point de vue de la biodiversité, ça fait plaisir. Par contre, pour les populations de truites, c'est plus compliqué, quoi. Voilà. Hein.
Donc on a beaucoup de mal, nous, néophytes, à comprendre ce qui se passe dans la rivière.
Tout à fait, tout à fait. Ce qu'il faut voir, voilà, j'avais commencé à vous expliquer à partir de la notion de débit réservé, ce qui est bon pour les poissons. En fait, chaque espèce, en fonction du profil de la rivière, on arrive à déterminer un débit optimum pour le développement de cette espèce. Là, on s'aperçoit que avant la mise en place des débits réservés, des études ont été faites. On avait un optimum qui était à peu près à 6 mètres cubes. Donc, pour arriver à concilier tous les usages, on a sacrifié le développement optimal des espèces aquatiques pour pouvoir continuer à pratiquer le rafting. Aujourd'hui, on voit, après plusieurs années d'études pour mesurer l'impact de cette augmentation des débits, On va voir de façon assez précise ce qu'il en est. Je ne veux pas jouer Madame Irma et lire dans ma boule de cristal, mais il me semble que nous ne sommes pas parvenus à récupérer les 80% qui nous manquent. Voilà. Mais ça va dans le bon sens.
Ça va dans le bon sens. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a trop de monde, trop de personnes autour de cette rivière, surtout en été ?
Eh bien écoutez, moi je crois qu'il y a surtout un problème d'identité au bord de cette rivière. Je sais que ce mot ne fait pas plaisir à tout le monde, mais moi je crois qu'il faut savoir qui on est, où on veut aller et qui on veut être. Est-ce qu'on veut un aqualand dans une rivière, un parc d'attractions à connotation environnementale, ou alors est-ce qu'on veut vraiment une rivière ? Si on veut vraiment une rivière et des paysages de qualité et un milieu de qualité, eh bien oui, il y a trop de monde et il faut réguler les flux de population. Alors pour la randonnée aquatique, il y a un cadencement qui a été mis en place par la préfecture, un cadencement qui est assez difficile à faire respecter. Mais d'une manière générale, oui, je crois que si on veut garder cette image du tourisme dans les Alpes-de-Haute-Provence, du tourisme nature et d'un lieu où on vient en vacances pour se ressourcer, pour profiter d'une belle nature, d'une nature sauvage, oui, je crois qu'il y a trop de monde et qu'il faut surtout envisager le développement touristique de cette vallée dans une autre direction. Il faut que les mentalités changent. Il y a un regard neuf à inventer.
Inventer, tout est dit là. Donc il faudra de la discipline.
Il faudra de la discipline et je crois surtout, moi vous savez, je crois que la discipline n'est jamais aussi efficace quand on a compris quelque chose, quand elle vient de nous-mêmes. Je pense qu'il faut beaucoup de pédagogie au départ, déjà pour faire comprendre ce qu'est une rivière vivante. Vous voyez, ça fait quelques minutes que je vous parle, bon, vous comprenez certainement qu'il y a un certain nombre de leviers d'action, que c'est complexe, mais peut-être que vous n'avez pas totalement compris ce qu'il faudrait faire pour que la rivière soit vivante. Et bien, personne ne le sait précisément ce qu'il faut faire pour qu'elle soit en très bon état. Donc petit à petit, on essaie d'améliorer les choses, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut faire un effort de compréhension et arrêter de pratiquer la politique de l'autruche en mettant en avant seulement des arguments économiques. Parce qu'à mettre en avant que des arguments économiques, on a le territoire qui correspond à ce que l'on fait. Quoi. Et c'est dommage de tirer ce territoire vers le bas. Parce que le Verdon, disons-le clairement, c'est un joyau. Et les gorges du Verdon, plus encore, ce sont les plus belles gorges en Europe. Pour ne pas dire dans le monde, il y a les gorges du Colorado qui sont pas mal non plus. Mais en Europe, ce sont les plus belles gorges d'Europe et ça mériterait d'être inscrit dans une forme de patrimoine, sinon mondial de l'humanité, mais c'est un patrimoine environnemental. Enfin pour nous pêcheurs et nous habitants du Verdon, c'est quelque chose quand même qui est à valoriser. On en a assez de la banalisation de cette rivière qui est changée en toboggan pour s'amuser, pour faire du raft, pour faire de la randonnée aquatique. Et après, il y a de la place pour tout le monde. Chaque activité bien pratiquée avec il faut avoir une approche qualitative des activités. Moi, je dis souvent que si j'allais à la pêche et que je croisais 500 pêcheurs le matin sur mon parcours, ben, je serai le premier à ne plus y aller. Actuellement, vous allez faire de la randonnée aquatique au couloir Sanson. Il y a 400 personnes qui passent par jour au couloir Sanson. Et dans la saison, il passe 10 000 personnes. Donc voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un développement qualitatif de ces activités? Des activités beaucoup plus encadrées, allez, n'ayons pas peur de prononcer les mots, beaucoup plus chères, pourquoi pas, mais qui fassent vivre donc les compagnies qui les pratiquent, mais qui les fassent vivre de façon respectueuse de l'identité de ce lieu. Quoi, voilà, on ne veut pas d'un parc d'attractions.
Voilà, donc là est venu le moment de faire une petite pause, que nous digérions ce que vous venez de nous dire, en écoutant une chanson de Serge Lama, « Haut comme les saumons ».
Je serai mort avant d'avoir
ce Verdon a changé d'aspect. Vous avez pu vous en apercevoir?
Oui, nous avons pu nous en apercevoir à échelle humaine. Donc moi, pour ma part, en 20 ans, 30 ans, on a clairement vu que des zones sont devenues totalement dépourvues de gravier, même à des endroits très, très faciles à reconnaître. À l'entrée du couloir Sanson, vous regardez les cartes postales des années 70 et vous voyez à quoi ça ressemble aujourd'hui. Mais le lit de la rivière s'est incisé et à bien d'autres endroits. Donc ça traduit un dysfonctionnement dans le lit de la rivière, quoi, disons. Et il y a une problématique que je vous ai évoquée, qui est celle des matériaux qui sont retenus dans les barrages. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'en amont des barrages, en amont de Castillon, donc dans le Haut-Verdon, il n'y a pas de barrage. Les matériaux continuent à transiter. Ils s'accumulent en amont de Saint-André-les-Alpes. Et ces matériaux qui risquent de créer un risque d'inondation, la loi nous obligerait de les remettre, de les curer et de les remettre en aval, alors que ce n'est pas le cas dans le Verdon. Ces matériaux continuent à être exploités dans des carrières, alors que la rivière est en déficit à l'aval. Donc de ce côté-là, il y a une grande marge d'action pour améliorer les choses, pour améliorer le fonctionnement écologique de cette rivière. Je vous rappelle que sur le moyen Verdon, tous les ans, il manque 10 000 mètres cubes de matériaux, alors qu'en amont, on en enlève et on en vend aux extracteurs de granulats 30 000 mètres cubes. Il y a quelque chose qui ne va pas, même si il ne faut pas croire que tout est mauvais dans cette pratique. Mais quand même, il y a un minimum pour que le fonctionnement de la rivière soit optimum qu'il faudrait restaurer.
Ça n'a rien à voir avec l'envasement.
Ça n'a strictement rien à voir avec l'envasement, non. Ce sont des matériaux qui transitent dans les galets roulent, vous avez remarqué, ils sont ronds et à chaque crue, ils se déplacent et ils s'entassent et comme depuis une vingtaine ou une trentaine d'années les scientifiques ont compris toute l'importance de la présence de galets dans une rivière pour avoir un bon fonctionnement écologique, pour qu'il y ait de la vie bien sûr, mais aussi pour que l'eau soit de bonne qualité, pour que les terres qui soient à côté, pour que les nappes phréatiques soient bien alimentées, il faut qu'il y ait des galets. Donc cette problématique ce qu'on appelle du transport solide, du charriage des sédiments, doit passer au devant de la scène.
Et quand on voit l'hiver, le lit, enfin les galets verdir, pas normalement un galet dans l'eau, il devrait être une pierre. Voilà, l'hiver, il arrive qu'on les voit avec des algues.
Oui. Alors, il y a plusieurs explications à cela. La première explication, c'est que dans une rivière où il n'y a plus de galets, les galets ne peuvent plus rouler les uns sur les autres. Et comme ils ne roulent plus les uns sur les autres, ils ne se nettoient plus. Ça, c'est le premier fait. Mais en plus, s'il y a une charge organique dans la rivière liée au rejet de stations d'épuration, certaines algues peuvent se développer, plus particulièrement en hiver, et avoir un aspect peu ragoûtant que vous évoquez peut-être.
Voilà, alors là on trouve que lâcher d'eau c'est une bonne chose parce que ça nous nettoie un petit peu tout ça. Et puis il y a que l'eau de la rivière est aussi un jeu puisque sortie du Verdon, elle va aller alimenter la Basse-Provence, on dira.
Tout à fait. Alors l'histoire de l'aménagement des eaux du Verdon est une longue, longue, longue histoire. On pourrait en parler des heures. On pourrait parler au début du siècle, donc le fameux canal d'Aix qui prélevait les eaux à Quinçon pour alimenter Aix-en-Provence. Et aujourd'hui, d'ailleurs, toutes les eaux d'Aix-en-Provence viennent du Verdon. Les eaux qui sont stockées dans les lacs de Bibémus et de Zola en amont d'Aix-en-Provence, c'est les eaux du Verdon qui transitent par le canal de la SCP.
SCP ?
Société du Canal de Provence, donc. Et d'aménagement des territoires, je crois. Donc voilà, toute cette eau du Verdon, donc depuis le début du siècle, y a beaucoup d'eau dans le Verdon, il y a pas mal d'eau dans la Durance, et les Bouches-du-Rhône et le Var ont très peu d'eau, ont de grands besoins en eau. Donc vous comprenez que notre territoire a fait l'objet d'un certain nombre de convoitises. Au début du siècle, le président de la République, Clémenceau, on a des vieilles cartes postales de cette visite, le président de la République était venu visiter le lac d'Alos, il voulait détourner l'eau du lac d'Alos vers le vers les Alpes-Maritimes.
Pour, carrément.
Pour... Oui, carrément, carrément, ni plus ni moins. Il l'avait acheté d'ailleurs, il savait acheter le lac d'Alos, tant qu'à faire. Et donc, bon, ben, les pratiques aujourd'hui sont moins... Cela se fait moins à la hussarde, mais l'intention est la même. Les départements limitrophes ont des besoins en eau, et on peut le comprendre, on peut tout à fait comprendre qu'il y ait une solidarité dans la ressource en eau. Par contre, il faut savoir précisément ce qui se cache derrière cette solidarité. Que notre territoire soit solidaire, oui, mais il ne faut pas qu'il soit, je ne vais même pas dire spolié ou dépossédé, mais il faut qu'il garde son identité, qu'il fonctionne bien d'un point de vue écologique, et qu'après, ben, en plus, on donne l'eau qui est en excédent, ben oui, bien évidemment. Mais pour vous donner quelques points de repère, alors on m'excusera par avance des approximations que je vais faire, je donne juste des ordres de grandeur, hein, je vous demanderai de le rectifier si vous avez plus d'informations, mais la Société du Canal de Provence, par exemple, qui dérive les eaux du Verdon, dérive 200 millions de mètres cubes par an. Hein. 200 millions de mètres cubes par an, à 1 euro le mètre cube, je vous laisse faire la multiplication, c'est pas très compliqué à voir. EDF produit 600 millions de kilowatt-heure avec les 5 barrages du Verdon. Donc à 15 centimes du kilowatt, la totalité, donc EDF plus SCP, ça fait environ 300 millions d'euros tous les ans. À côté de ça, nous avons un contrat rivière, donc de l'argent qui revient à la rivière, Verdon, de 47 millions d'euros sur 5 ans. Donc quand on sait que l'agence de l'eau finance peut-être 50 ou 80% de ce contrat de rivière, ce que la SCP et EDF redonnent pour permettre au Verdon de bien fonctionner, cela représente à peu près 0,5 ou 1% de ce qu'ils prennent. Donc on nous demande d'être solidaires. Oui, il faut être solidaire, mais... cette solidarité doit avoir pour contrepartie un investissement fort pour restaurer la qualité des milieux aquatiques et la qualité de vie de cette vallée du Verdon, qui n'est pas une vache laitière, et les populations locales ne sont pas des nègres blancs, si vous me permettez cette vilaine formule.
Tout à fait. Il y a quand même des travaux en cours. On en parle quelquefois, même assez souvent, le sage de l'eau.
Tout à fait. Alors, le SAGE, c'est quoi? C'est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. C'est le grand document d'orientation de la politique de l'eau sur un bassin versant. Donc, cela traite tous les aspects qui touchent à l'eau. Donc, aussi bien la gestion des stations d'épuration, l'assainissement, donc, hein, pour rejeter une eau de qualité dans la rivière, pour améliorer la situation. Parce qu'il y a quelques années, je peux vous dire que la situation du Verdon n'était pas reluisante. Et en quelques décennies, même s'il reste de gros efforts à faire, mais il y a quand même eu des progrès vraiment admirables. Donc voilà, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'occupe de l'assainissement, s'occupe de décider de la gestion des débits, s'occupe de l'entretien des berges, s'occupe de restaurer un certain nombre de milieux. Donc voilà, oui, de très bonnes choses ont été faites.
Qui ? Eh bien, précisément.
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est mis en place par des maîtres d'ouvrage. Donc le maître d'ouvrage, ben, cela peut être des communes, des collectivités, le parc du Verdon, cela pourrait être la fédération de pêche sur certains points. Cela peut être tous les acteurs qui se sentent concernés par l'amélioration qualitative de la gestion du Verdon.
Et ça fonctionne?
Cela fonctionne, oui, mais le problème, c'est que c'est tellement gigantesque, tellement lourd et long à mettre en œuvre qu'on a l'impression que ça va trop lentement et que rien ne se fait. Mais c'est faux. Il y a des choses, de très bonnes choses qui se font sur l'entretien de la ripisylve, sur la prévention des risques d'inondation, le recensement des zones humides. Je ne pourrais pas tout vous énumérer parce que c'est vraiment un travail pharaonique qui est fait, qui est porté par le parc du Verdon, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'à côté de cela, ben, il y a un certain nombre de problèmes qui sont un petit peu laissés côté, et nous pêcheurs, nous sommes là pour être un petit peu l'aiguillon qui fait que ces gens qui travaillent très bien, travaillent encore mieux, voilà.
Alors la fédération de pêche là-dedans, avant que nous nous quittions, la fédération de pêche a des projets?
Alors la fédération de pêche, ben, bien évidemment, elle aimerait que le Verdon redevienne ce qu'il a été dans les années 70, 80, 90, où on venait à la pêche des quatre coins de la France, on venait même depuis la Normandie pour camper au bord du Verdon et pêcher les truites de lac, les truites lacustres qui remontaient dans le Verdon depuis le lac de Sainte-Croix, qui étaient tellement nombreuses et tellement grosses que ça les justifiait qu'on traverse la France pour venir les pêcher. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu le contraire. À l'automne, ce sont les pêcheurs provençaux qui partent en vacances en Normandie pêcher les truites de mer. Mais bon, j'espère que ça s'améliorera. Et ça va s'améliorer, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ça va être très, très long et très, très, très lourd. Et voilà, un des projets qui tient particulièrement à cœur à la Fédération de pêche, qui a été un petit peu absente pendant des années sur ce point, c'est de travailler pour améliorer d'un point de vue morphologique cette rivière, c'est-à-dire s'occuper des petits affluents dans lesquels les poissons vont se reproduire, s'occuper du lit du Verdon, dont je vous dis qu'il manque cruellement de galets, faire en sorte que il y ait des recharges sédimentaires qui soient effectuées régulièrement, que l'habitat, d'une manière générale, que le Verdon devienne une rivière plus plus agréable, plus habitable pour les poissons. Et je tiens à signaler un mot aussi le projet remarquable qui est conduit actuellement par le parc naturel régional du Verdon, projet de renaturation morphologique du Colostre. Le Colostre, c'est un affluent de 40 km qui va se jeter dans le Verdon en amont de Gréoux-les-Bains. Colostre qui est barré d'une trentaine de petits seuils, qui a été recalibré au bulldozer dans les années 60. Et pour vous donner un point de repère très simple, en quelques décennies, on est passé de 6 espèces de poissons vivant dans le Colostre à plus qu'une seule. Donc vous voyez l'ampleur du problème. Eh bien, le parc du Verdon a pris le problème à bras le corps et ils sont en train de faire un grand projet qui va rétablir les continuités écologiques, donc permettre aux poissons de circuler et redonner un visage accueillant à cette rivière, refaire du Colostre une rivière alors qu'aujourd'hui il est rien d'autre qu'un toboggan de galets, pour ne pas dire qu'un gros caniveau.
Voilà, la voie est tracée, il n'y a plus qu'à. Et puis peut-être à faire d'autres émissions pour éclairer encore ces propos qui sont... Le Verdon, c'est vraiment un thème riche et avec beaucoup d'aspects, et c'est très difficile de les aborder tous bien en si peu de temps. Voilà, nous allons devoir nous quitter. Et quand même, le Verdon, c'est aussi de la poésie. Voilà, et Jean-Christian Michel, avant que nous nous séparions, va nous lire un poème qu'il avait écrit. Puisque pêcheur, il n'en est pas moins poète. À bientôt.
Voilà, c'est un petit poème qui évoque l'atmosphère particulière des gorges du Verdon. Je vous demande toute l'indulgence qui est nécessaire. En aval de la rivière Enfant, il n'y a plus de pont ni de berge. Beaucoup de choses sont oubliées, les peupliers et les maisons. À l'autre bout, un chemin coule en tremblant vers le gravier du soir. Les saisons rêvent, et le courant superbe, hérité de l'amont, avale l'espace. Mais entre, au pas de fantastiques dédales, les minéraux s'écroulent sur le vertige de l'air. Un astre tellurique mène les eaux du dedans à découvrir le ciel et les arbres, à pousser l'ombre au clair de la berge et les pêcheurs timides au large du plaisir qui enfante des gouttes fraîches à l'instant et des étoiles vertes, même si jamais il n'y pleuvait. Caverne d'eau où sèment des vasques et des contre-courants, vie minérale où s'étoile le risque d'un peu de chair. Des blocs ébahis enchantent l'espace et l'eau se met à éternuer du bleu. Une truite soulève la nuit de pierre et frôle le courant, puis l'onde du printemps. Le temps d'une vie s'éclaire. Dans ses entrailles, un peuple a laissé ses terreurs et un peu d'eau claire, quand le bleu de la fonte ou le vert du ciel lui laissait tremper une main. Il y a des hommes penchés sur le soir et des femmes aux épaules de matin. Peut-être que les enfants ont lancé des fleurs et des petits cailloux. Les rigoles des jardins ont coulé jusqu'en bas. Une main écorchée a été lavée. Dans le torrent, il ne reste rien. Au début du monde, tout est simple et violent. Au fil de la rivière, les choses s'arrangent de la même façon. Donner la simplicité de la vie ou mourir dans le moindre silence. Innocence des saisons et des feuilles que la rivière charrie. De l'eau qui se retire des bancs de gravier et qui noie les troncs et les rochers. Eau qui oubliera tout dans tous les sens. À l'écart, il ne reste rien. On trouve des gens, des paroles et des choses. Et qui sait où tout cela va? Encore heureux dans les parages et le lointain, le soleil a trop à faire dans les campagnes pour descendre aux gorges. Torrent de ciel bleu entre les branches et les nuages, sauvage comme à tous les matins, de départ en départ. Et pour tout dire, face à la terre inquiète, des pas, des pas, des pas, sur quelques gouttes de poussière. Parole amie des sens différents et des tourbillons. De la fraîcheur de la rivière, j'ai parlé, de la fraîcheur de la rivière.